Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je suis avec Miranda, qui est fondatrice et gérante d'un salon de thé anglais, Love Days, à Clermont-Ferrand. Elle va nous raconter pourquoi une Anglaise a ouvert cet établissement et au menu aujourd'hui, une spécialité qui me tient vraiment au cœur, parce que c'est de chez moi, le Cornish pasty. So, pinky up and let's get started. Alors, bienvenue Miranda, je suis vraiment ravie de te recevoir dans mon petit salon de thé, parce que surtout, on est toutes les deux de la même ville, dans les Cornouailles. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'avoir invitée, surtout.
Et surtout aussi parce qu'on va parler d'une grande spécialité que j'adore et qui me manque beaucoup. Mais avant de parler de cette spécialité régionale, peut-être tu peux me raconter comment est-ce que tu es arrivée en France et pourquoi ouvrir un salon de thé à Clermont-Ferrand.
Comment je suis arrivée en France? Bah, comme beaucoup d'Anglais, je viens d'une famille très francophile. Bon, j'ai passé évidemment les vacances dans la sud de la France avec ma famille. Et au fait, en 2005, ma mère, elle a décidé de prendre sa retraite et de venir vivre en France. Et moi, j'ai sorti de mes études dans les Cornouailles. J'avais fait une école d'art et j'ai sorti de mes études. Elle m'a proposé de venir en France pendant un an. Voilà, c'est un peu l'histoire de plein de gens qui arrivent et en fait qui repartent jamais. Donc, elle est venue, j'ai suivi avec ma fille qui était tout petite à l'époque. Donc, un an s'est transformé en 2 ans, j'ai commencé à travailler et petit à petit, en fait, sans vraiment me rendre compte, j'ai fait ma vie ici.
Et tu es arrivée tout de suite à Clermont-Ferrand?
Non, en fait, on était en Auvergne, mais dans l'Allier, le département de l'Allier. Et j'ai eu ma mère, elle y habitait, ma tante aussi, elle y habitait. Donc, c'était très, très sympa. Et j'ai passé ma vingtaine dans l'Allier, à enchaîner des petits travaux. Et ensuite, je me suis formée dans l'enseignement de l'anglais langue étrangère. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'université Clermont-Auvergne pendant 9 ans en tant qu'enseignante d'anglais. Pourquoi j'ai commencé ce projet? J'ai toujours voulu faire quelque chose à mon image, à créer quelque chose, un lieu pour les gens. Un lieu convivial. Jeune, j'ai beaucoup travaillé dans les commerces. Et donc, moi, j'aime beaucoup le contact avec le public. J'aime beaucoup... je suis très sociable. Donc, j'ai eu en tête pendant très, très longtemps l'idée d'un projet qui allait réunir mes centres d'intérêt, c'est-à-dire la cuisine, la culture britannique. Et donc, le projet vient vraiment de cette envie de créer un lieu pour accueillir les gens. Après, le côté anglais est venu plus tard. Ça aurait pu prendre d'autres formes. Mais en fait, c'est mon conjoint qui m'a dit qu'il trouvait ça très... que ça faisait vraiment sens de faire quelque chose lié à ma culture et surtout lié à la cuisine britannique.
Bah oui, bah je pense que tu as raison de faire quelque chose qui est vraiment aligné avec ton héritage. Et selon les photos, parce que malheureusement, je n'ai pas encore le temps d'aller visiter ton salon de thé Love Days à Clermont-Ferrand, je vois ce clin d'œil à l'Angleterre. Je vois les petits plats qu'on reconnaît avec des super photos sur une jolie porcelaine. Et tout ça dans un cadre avec, je crois, c'est des tableaux de ton conjoint aussi.
Tout à fait.
Et Miranda, pourquoi ce nom Love Days pour ton salon de thé?
Alors, le nom Love Days, à part le fait que c'est le jour d'amour, c'est une de mes prénoms. C'est un prénom des Cornouailles et c'est mon troisième prénom. En fait, je m'appelle Miranda Rose Love Day. Et donc,
Oh, c'est joli.
on est vraiment chez moi. Voilà.
Ah ouais, super. Et alors tout à l'heure, on parlait justement, tu l'appelles ça un salon de thé, je te demandais est-ce que c'est un café? Alors tu m'as expliqué, c'est pas tout à fait la même chose. Quelle est la différence?
Oui, alors le nuance entre salon de thé et café, ça peut être plein de choses, mais moi, pour moi, le salon de thé anglais est un lieu où on trouve les thés, bien sûr, quelques cafés aujourd'hui, parce que c'est le souhait du public de boire du café de plus en plus, surtout en France. Mais on va trouver, par exemple, l'espresso, le doppio, l'allongé, mais moi j'ai pas une carte de café extensive avec des lattés, des chai, etc. Oh, par contre, le chai est très très bon. Peut-être que je
Ouais, c'est
l'ajouterai.
vrai.
Mais j'imagine quand je réfléchis à ma carte, je réfléchis au salon de thé de ma jeunesse. Qu'est-ce qu'ils avaient à la carte? Bah, c'était des petites sandwiches simples. C'était des boissons traditionnelles, le bon jus de pomme, le sirop de sureau, les choses qui évoquent vraiment pour moi l'Angleterre.
Oui, donc c'est un retour au passé, peut-être aux souvenirs avec nos grands-parents dans un petit salon de thé assez cosy. Et donc, j'ai vu justement que tu as des thés de Caroline. C'est quoi? C'est une marque?
Oui, alors le thé de Caroline, c'est assez intéressant comme histoire parce que, bien sûr, tout de suite, au moment de monter ce projet, on a le Brexit dans les
Oui,
pattes.
c'est vrai.
Donc, l'idée de monter le salon de thé avec les produits, d'importer les produits du Royaume-Uni devient tout de suite un peu plus compliqué. Et les thés de Caroline, c'est une marque française, mais créée par un couple
Ah
anglais.
bon?
Alors, le couple, ils sont à côté de Toulouse. Ils ont tous les deux travaillé dans les thés. Et Caroline, elle est très passionnée par le thé. Donc, elle décide de créer sa propre marque. Et moi, j'ai trouvé par Instagram. La marque, bon, on s'est mis tout de suite en contact, on a vachement sympathisé. J'adore son univers. Tout est made in France. Ils font travailler les graphistes locaux pour le packaging aussi. Donc, c'est vraiment bio, bien pensé.
Mais c'est génial.
Ouais, c'est
Et il faut
génial.
que j'aille à sa rencontre parce que justement, j'ai cherché
Oui.
la bonne personne pour parler du
Oui.
thé.
Bah oui.
Et voilà, bah, je crois que tu m'as donné une très bonne adresse. Merci beaucoup. Alors,
Bon, avec plaisir.
pour nous aujourd'hui, alors je crois que tu ne fais pas encore les corniches pastilles dans ton salon de thé, peut-être plus tard, mais nous deux déjà, on doit partager forcément plein de souvenirs similaires de nos enfances. Mais
Oui.
pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout The Cornish Pasty, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Oui, bah d'abord, je peux expliquer ce que ce n'est pas, parce que à chaque fois que je dis Cornish pastis, ils disent, les Français, ils entendent
Ah ben
pastis,
bien
le
sûr,
pastis.
oui.
Et du coup, non, ce n'est pas une
C'est
boisson.
comme le Pimm's, ce n'est pas non plus un petit gâteau au chocolat. C'est un autre
Oui.
boisson, c'est notre spritz anglais.
Oui. C'est clair. Ok, donc ce n'est pas une boisson. Donc le pastis, donc PASTY, est notre plat national. Si on était notre petit pays dans les Cornouailles, c'est notre plat national. Donc, alors, le pastis, c'est comme une petite tourte, comme une chausson entourée de pâtes. Donc, une pâte brisée ou feuilletée également, ça marchera. Mais traditionnellement, c'est fait le pâte brisée et c'est farci à l'intérieur avec, traditionnellement, avec pommes de terre, rutabaga, oignons, bœuf et assaisonné très simplement au sel et au poivre. Et c'est quelque chose qui se mangeait traditionnellement par les artisans, les mineurs, les agriculteurs.
Tout à fait.
Voilà.
Et on va revenir à ça, mais je suis sûre que moi, tu as des souvenirs. Tu te rappelles soit ton premier pastis ou des moments. Moi, j'ai plein de souvenirs d'avoir mangé les pastis.
Alors, le pastis, pour moi, c'est vraiment. Bon, moi, j'ai grandi dans une petite ville. Donc, on n'avait pas de McDo, on n'avait rien du tout au niveau fast-food. C'était dans les années 80. Et pour moi, le pastis, c'est le fast-food par
Tout
excellence.
à
Parce
fait.
que c'est quelque chose qu'on achète dans une petite sac en papier. Et en fait, on va à la boulangerie, n'importe de quel moment dans la journée, il y a des pastilles à vendre. On peut manger un pastis le matin, midi et le
Et
soir.
ça sent bon quand tu passes devant la boulangerie.
Mais ça sent, c'est incroyable comme ça sent bon. Et c'est un plat, oui, qui est plein de nostalgie pour moi. J'aurais mangé ça entre amis, en famille, à la maison. C'est pas quelque chose qu'on faisait dans ma famille, parce que ma famille ne sont pas de la région. Mais j'avais une copine, et avec cette copine, sa grand-mère, elle était vraiment des Cornouailles. Et en fait, ça, c'était le vrai pastis pour moi, de aller manger chez la grand-mère de ma copine. Elle nous préparait les pastis, et ils étaient incroyables. Et je pense que ça, c'est le meilleur pastis que j'ai jamais mangé. Sinon, dans ma ville, on avait des boulangeries comme Oggy Oggy, Bluets, Rose, toutes les grandes
Qui
enseignes
existe encore, hein, et je pense que
qui
c'est grâce
existent
au
encore.
pastis, ouais.
Ouais, et oui, donc c'est effectivement un plat qui a beaucoup de nostalgie. Oui, c'est la Madeleine de Proust,
Ouais.
peut-être.
Ben moi, c'était dans tous nos pique-niques à la plage. J'avais un père qui était chasseur, hein, et alors là, quand il fait froid, humide en hiver, rien que mieux qu'un pastis. Parce que c'est vraiment le comfort food, donc il faut dire que c'est pas léger, hein. Tu es un peu comatosé après sur la plage si c'était dans une journée un peu chaude, mais c'est tellement délicieux. Et moi, ma mère, n'étant pas corniche, de Cornouailles, elle était irlandaise, mais elle s'est appliquée à la tâche et c'est elle qui les faisait très souvent et c'était délicieux. Alors, est-ce que tu savais, comme bon, beaucoup de notre cuisine, le mot, on est très inspiré par la France et on a pris beaucoup de mots de la langue française. Donc, en fait, le pastis, ça vient d'un mot français médiéval, le pasté, qui vient lui-même du latin pasta. Donc, voilà, tu vois tout de suite le lien avec tous ces produits pâtes à la base de farine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver des pastilles avec toutes sortes de garnitures. On va revenir tout à l'heure. Mais le vrai traditionnel Cornish pasty, qui a le label PJI, ça veut dire indication géographique protégée, pour pas être confuse avec plein d'autres produits qui étaient des pauvres copies. Mais le vrai tradition, c'est comme les Anglais qui adoraient leur viande et de légumes, on dit meat and two veg. C'est donc cette version-là avec la viande, les pommes de terre, les oignons et les rutabagas. Et toi, tu es végétarienne, tu me dis.
Oui.
Donc peut-être tu fais justement une autre version.
Oui, après, j'ai pas toujours été végétarienne, donc j'en ai mangé les pastilles à la viande, j'en ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Mais oui, comme vous disiez, il existe aujourd'hui pour tous les goûts. On peut manger un végétarien, un vegan. J'ai même vu les pastilles au curry, le poulet. Là, je dis stop parce que franchement, c'est un peu sacré le pastis quand même. Mais si j'avais à choisir mon pastis sans viande de préférence, c'est le pastis au maïs et brocoli.
Ah oui.
Maïs, brocoli et Stilton.
Ah, je me suis dit bien, il fallait avoir un peu de fromage là-dedans pour le relever. Oui, mais ça doit être
Ouais.
bon.
C'est ultra bon. Et pendant ma première grossesse, j'étais à, je sais pas, peut-être à 6 pastilles par semaine.
Ah oui, quand même.
Ouais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment accro. Donc.
Mais tu vas nous donner cette recette aussi. Mais tu sais que chaque année, ils organisent le concours mondial des pastilles en Cornouailles. Et c'est organisé pour les particuliers et les professionnels. Et justement, il y a donc les traditionnels et puis il y a les catégories un peu plus freestyle. Et là, j'étais sidérée de voir qu'il y a des pastilles à la lasagne, des pastilles aux spaghettis et boulettes et le pastilles au curry de poulet.
Oui, ça va,
Ah, je te
voilà.
vois grimacer comme moi. Ça, pour nous, ça va trop loin
Bah
là.
non, mais c'est juste pas possible. C'est comme, je sais pas, si on commençait à faire des croque-monsieur avec des pâtes, un croque-monsieur, c'est un croque-monsieur et c'est
Voilà.
pas. Pour moi, quand on commence à mettre autre chose dedans, ça change, ça devient autre chose complètement. Et c'est plus un,
C'est
pour
pas
moi, c'est plus un pastis. C'est une simple pie.
Voilà.
Donc,
Ouais. Alors, si justement, si on revient à la tradition et la tradition des pastilles tout court, ça n'a pas commencé en Cornouailles, hein. Les Anglais, ils sont vraiment les premiers à faire les street foods qu'on connaît comme street food, surtout à Londres, parce que les gens des classes ouvrières et pauvres, ils n'avaient pas de four. Donc souvent, on achetait dans la rue et on n'avait pas d'assiette ni couvert. Donc tout ce qui était cuit dans une pâte, c'était très facile à emporter. Et ça existait vraiment, on les trouve dans les livres de cuisine française même, depuis le 14e siècle. Là, ça va être plutôt sur les tables de l'aristocratie, mais en Angleterre, on a fait des versions pauvres. Pourquoi? C'est que la farine et l'eau pour faire une pâte, ça coûte rien. Et après, pour les pauvres, on aurait mis des petits morceaux de ce qui restait. Certainement pas beaucoup de viande au début, mais des restes de gras, de légumes, etc. Alors, il y avait des versions, on va dire, pour les gens plus aisés, où ils étaient capables de cuire un oiseau entier ou un morceau de viande dans la pâte. Mais voilà, le Corniche pasté est arrivé en Cornouailles et s'était adopté, comme tu avais dit, parce qu'on avait une exploitation minière très, très importante. Les Cornouailles et les Devons, ils ont fourni la plupart des tins de cuivre et de l'arsenic pour tout le Royaume-Uni et qui s'est arrivé à son apogée dans le 19e siècle. Donc, c'était une des régions minières la plus riche au monde. Et donc, pour nourrir toute cette armée de mineurs, rien mieux qu'un corniche pasté qui était fabriqué par leurs femmes et porté dans les mines. Et ces mineurs qui avaient ce savoir-faire, après, ils sont repartis dans le monde entier. Et donc, on peut trouver les pastilles partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis et même au Mexique. Et donc, souvent dans les pays hispaniques, on va trouver sous le nom de empanadas. Et ce qui est très intéressant au Mexique, où j'ai de la famille, donc j'ai pu découvrir cette histoire un peu plus en détail, c'est que j'ai compris qu'en fait, c'est les mineurs de Cornouailles qui ont aussi apporté le foot au Mexique. Le foot parce qu'ils jouaient le soir après le travail, et c'est de là que le foot a pris pied, excuse-moi le jeu de mots, au Mexique. Alors, une légende dit que le diable, il traverse jamais la rivière Tamar. Alors, la rivière Tamar, Tamar, on dit en anglais, c'est à la frontière entre le Devon et les Cornouailles. Et on dit que le diable ne traversait jamais la rivière parce qu'il avait peur de cette habitude des femmes de Cornouailles qui étaient capables de mettre tout et n'importe quoi dans un pastis. Et alors, ce pastis était aussi adopté, non seulement pour son côté pratique parce qu'on pouvait mettre dans la poche et qui tenait chaud, donc parfait pour manger à midi, mais la recette qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi un peu lié à l'époque où on a introduit des rutabaga ou des choux navets, comme on appelle ça, pas en Cornouailles, on a un autre nom, mais ça s'était introduit à partir du 18e siècle. Donc c'est là qu'on commence vraiment à voir cette combinaison de viande avec les trois légumes. Alors, tu sais certainement comment on appelle les rutabaga en Cornouailles, parce que c'est très particulier. Les swedes.
Oh, swedes! On ne dit pas swedes partout?
Pas du tout, c'est vraiment en Cornouailles. Et non. Parce que le reste de l'Angleterre, on va peut-être dire rutabaga. En Écosse, on va appeler ça les nips.
Ah,
mais
oui.
En Cornouailles, on appelle ça le swede. Alors, j'ai cherché pourquoi. Et en fait, on dit que ça vient des pays scandinaves. Et le mot suédois, c'est rotabag, donc là on trouve le rotabaga, mais je crois que les gens de Cornouailles étant un peu paresseux ou qui n'arrivaient pas à le prononcer, ben on a tout simplement dit les swedes. Mais voilà.
C'est vachement plus simple, ouais, en effet, voilà. Rutabaga aux Suèdes, oui.
C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Et finalement, oui. Même si on dit que c'est notre plat régional, on voit bien toutes les influences qui viennent du monde entier qu'on trouve oui. Dans ce petit chausson.
En fait, moi, j'avais jamais entendu ce mot avant d'arriver en France.
Ah bon?
Le mot
rutabaga. Ah oui, c'est ça. Non, oui, moi non plus.
Non. Oui. Je l'avais jamais entendu avant d'arriver en France.
Mais ça fait partie un peu des légumes un peu oubliés parce que je crois qu'on a tellement mangé pendant la guerre que plus personne n'en voulait. Et maintenant, c'est redevenu à la mode.
Oui. Bah, il faut dire que dans le pastis, quelque chose qui est très important, moi, je trouve, c'est le poivre. Il y a un bon pastis ouais. va être très, très poivré. Et en effet, ça, c'est ça qui donne un peu d'intérêt, en fait, aux légumes. Et je pense que le fait qu'on utilise, le bœuf, mais c'est la hampe. C'est un morceau de viande qui se prête à ce plat et on peut aussi rajouter un petit peu de farine et du beurre. Mmh. Et donc, avec le poivre, la hampe, la farine et le beurre, on va arriver à avoir une sauce à l'intérieur, un peu de
un
sauce.
Un peu de gravy.
Parce que le pastis, oui, c'est pas sec.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
C'est très important, ça. Hein. Et d'ailleurs, je pense que le rutabaga, il a un petit côté poivré aussi, qui apporte ce petit côté relevé dans le pastis qu'on cherche quand même. Alors... Il y a plusieurs théories sur le pastis que tu as certainement grandi avec, mais comme à l'époque, il y a très peu de traces écrites pour cette cuisine très humble, tu vas trouver des livres de recettes pour des grandes maisons, pour les grands chefs, mais tout ce qui est plutôt cuisine paysanne, c'est difficile. Mais bon, les théories, c'était que, par exemple, comme on dit qu'il y a une espèce de anse ou poignée, une espèce de croûte épaisse autour de ce chausson, on dit que les mineurs jetaient la croûte parce que c'était en contact avec leurs mains qui étaient soit sales ou avaient même des traces de l'arsenic. Mais si on regarde des photos, c'est certainement pas vrai parce qu'on les voit toujours portées dans un petit sac en mousseline ou en papier. Donc, on dit aussi qu'on mettait les initiales parfois sur la pâte, on les gravait avec un couteau pour identifier le pastis parce que certaines personnes n'aimaient pas, peut-être la rutabaga, ou s'ils ne le mangeaient pas tout de suite, ils mangeaient plus tard. Et une autre histoire avec laquelle j'ai grandi, mais maintenant je vois que c'est même pas vrai, malheureusement, on me disait qu'il y avait à l'époque une partie salée d'un côté, donc il y avait la partie viande et légumes, et ensuite vous avez une espèce de compote de pommes ou une partie sucrée à l'autre. Donc ça faisait vraiment son top horaire complet avec dessert et plat. Mais apparemment ça c'est pas vrai, mais ça existe dans le Bedfordshire sous le nom du Bedfordshire Clanger. Donc voilà.
J'adore le nom Bedfordshire Clanger.
Bah écoute, on va faire un autre épisode sur ça, j'espère. Il faut que je me trouve quelqu'un du Bedfordshire. Et alors, dernier petit point. Quand les femmes ou les vendeurs de pastis arrivaient pour distribuer les pastis tout chauds, on criait, qu'est-ce qu'on criait?
Oggy, Oggy, Oggy.
Voilà, parce que Oggy, 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 enfin Oggy, c'est un surnom ou c'est l'argot pour un pastis. Et donc les femmes crient Oggy, Oggy, Oggy et les hommes répondaient Oi. Oi, oi, oi. Et depuis, ça a été repris dans la musique, mais surtout dans les clubs de rugby et d'autres sports pour un peu chauffer le public. Donc, quand vous entendez « Oggy, Oggy, Oggy » et les autres répondent « Oi, oi, oi », vous penserez à nous parce que c'est quand même d'une origine des Cornouailles. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, avec toi et moi, on a grandi en Cornouailles dans les années 80. C'est une région très sinistrée. Très pauvre, parce que avec la fin de cette activité minière, on n'avait plus grand chose. Le tourisme est venu en grand flot après, mais c'est surtout le pastis qui a un peu sauvé la Cornouaille en créant beaucoup d'emplois. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 2000 emplois grâce au Corniche pastis. Ça vaut à peu près 300 millions de chiffres d'affaires et il y a 120 millions de Corniche pastis fabriqués chaque année. Et donc, pour avoir cette fameuse indication géographique protégée, parce que vous allez trouver en Angleterre partout, mais cherchez le vrai produit, parce que sinon, vous risquez d'être déçu. Les règles, c'est pour avoir cette label, c'est que c'est fabriqué en Cornouailles, qui doit avoir cette forme de chausson ou forme de demi-lune avec le bord pincé sur le côté. Si c'est sur le haut, c'est peut-être pas un Corniche pastis, c'est même peut-être de Devon, notre concurrent. Il doit avoir au moins 12,5% de bœuf et avoir que turnip ou swede ou navet ou rutabaga. Vous voyez comment c'est compliqué. Oignons et pommes de terre. S'ils sont faits par un droitier en gaucher, ils ont un autre nom.
Ah bon?
Ah oui. Si c'est à gauche, un gaucher, on appelle ça un coq pastis. Et si c'est à droite, on appelle ça un hen pastis.
Ah bah oui.
Je trouve ça génial. Alors, Miranda, tu vas pas pouvoir éviter le moment de petit faux pas culinaire. Je suis sûre quand on a une après toutes ces années en France.
Ouais. Alors, mon faux pas aujourd'hui est le gâteau 4K qui se mange beaucoup en France pour le goûter. Et moi, j'adore ce gâteau et mes amis, ils adorent quand je l'appelle le gâteau caca.
Oh non!
Bah si, fallait le faire, hein. C'était.
Et tu te rappelles le jour où t'as enfin compris, c'est comme un petit ampoule qui tu dis, oh mon Dieu!
Oui!
Toutes ces années! j'ai parlé de caca!
Ça faisait beaucoup rire, voilà, le gâteau caca. Donc on me le propose encore aujourd'hui, une tranche de gâteau caca. Voilà.
je pense que tu devrais les mettre sur la carte dans ton salon de thé. Bon, et Miranda, merci beaucoup. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis d'un petit oggy, oggy, oggy?
On dit oi, oi, oi.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez les recettes pour le Cornish pastis traditionnel et le pastis végétarien sur mon site web, ainsi qu'un lien vers Love Days à Clermont-Ferrand. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur mon site lacremeanglaise.eu ou sur Spotify, Deezer, Apple, Google ou sur vos plateformes de podcast habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. So cheerio and see you soon.